Bonjour et bienvenue au Quoi de neuf docteur de la SPLF. Aujourd'hui, le professeur Pierre Fournel va nous faire un point en 5 minutes sur la prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules de stade 3 non opérables.
Eh bien, quoi de neuf dans la prise en charge des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules de stade 3 non résécable? Je m'appelle Pierre Fournel, je suis pneumologue de formation, actuellement oncologue médical à l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth à Saint-Étienne. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, l'élément qui est majeur et que l'on attendait depuis une quinzaine d'années, puisque depuis une quinzaine d'années, on n'avait pas véritablement vu de grandes avancées dans le traitement de ces patients, ce sont les résultats de l'essai PACIFIC qui ont été présentés à l'ESMO l'année dernière et rapidement publiés dans le New England Journal of Medicine. Donc je rappelle brièvement cet essai PACIFIC. Il s'agit de patients donc porteurs d'un cancer bronchique non à petites cellules de stade 3, non résécable, quel que soit le type histologique, c'est-à-dire épidermoïde ou non épidermoïde. Le statut PD-L1 n'était pas exigé pour participer à l'étude. Ces patients ont tous reçu une radiochimiothérapie concomitante, donc il fallait qu'ils aient au moins deux cycles à base de cisplatine, une dose de radiothérapie d'au moins 60 degrés. Et ces patients qui n'étaient pas progressifs en fin de radiochimiothérapie concomitante étaient randomisés dans un délai, alors ce qui est important, entre 1 et 42 jours, entre d'une part une immunothérapie par durvalumab tous les 15 jours à la posologie de 10 mg kilo pendant un an, sachant que le durvalumab est un anticorps monoclonal anti-PD-L1. Et le bras de référence était un bras placebo avec administration par voie intraveineuse du placebo tous les 15 jours, également pendant un an. Et ce qui est très intéressant, donc le critère principal, c'était la survie sans progression et la survie globale. Pour l'instant, on ne dispose que des résultats de survie sans progression, mais il y a un bénéfice très net en survie sans progression, puisque la médiane dans le bras durvalumab est presque de 17 mois, pour une médiane d'à peine 6 mois dans le bras placebo. Donc clairement, cet essai montre qu'il y a un bénéfice à faire une immunothérapie par durvalumab pendant un an chez des patients qui ont été traités par radiochimiothérapie concomitante et qui ne sont pas en progression à la fin du traitement. On s'aperçoit que ce bénéfice est d'autant plus net si l'immunothérapie est démarrée précocement. Initialement, dans cet essai, la randomisation se faisait dans les 14 premiers jours, ce qui techniquement était compliqué à faire, mais dans les analyses en sous-groupe, on voit que les patients qui ont démarré le durvalumab dans les 14 jours suivant la fin de la radiochimio ont un bénéfice encore meilleur que la population globale. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est de démarrer le durvalumab au plus tard 42 jours après la fin de la radiochimiothérapie pour respecter les données de l'essai. Alors aujourd'hui, le durvalumab n'a pas d'AMM dans cette indication. Il y a un dossier qui vient d'être déposé par le laboratoire qui le développe, mais il y a la possibilité d'obtenir le médicament en ATU et depuis quelques semaines en ATU de cohorte, en respectant bien sûr les critères de l'essai, c'est-à-dire des patients PS01 traités par radiochimiothérapie concomitante et non pas séquentielle, et randomisation dans les 42 premiers jours suivant la fin du traitement. L'autre élément également de cette positif de cet essai, enfin intéressant, c'est que les patients qui ont reçu du durvalumab ont moins de rechutes métastatiques, en tout cas un temps jusqu'à rechute métastatique plus long que chez les patients qui ont reçu le placebo. Donc là, clairement, c'est vraiment quelque chose d'important pour nos patients. Quel est le mode d'action? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est un effet conjugué de la radiothérapie et de l'immunothérapie tardif, puisqu'on sait que la radiothérapie peut entraîner une mort immunogène, ou est-ce que c'est un effet sur une maladie résiduelle qui va être contrôlée par l'immunothérapie? Pour l'instant, on n'a pas de données très précises là-dessus. En dehors de cette immunothérapie après radiochimiothérapie, les éléments qui marquent l'évolution de la prise en charge de ces patients depuis quelques années, c'est surtout les progrès de la radiothérapie avec les avancées technologiques et notamment l'introduction de la radiothérapie de conformation en modulation d'intensité qui permet de traiter certains patients présentant des tumeurs proches du cœur ou d'organes très sensibles comme la moelle épinière, dans de meilleures conditions, permettant d'administrer la dose requise avec beaucoup moins de risques de toxicité sur les organes à risque. Donc clairement, il y a eu des progrès indiscutables dans l'administration de la radiothérapie, ce qui permet d'avoir moins de toxicité. On a des pistes aujourd'hui avec la radiothérapie adaptative, peut-être l'utilisation de la radiothérapie stéréotaxique sur les tumeurs périphériques. Clairement, les progrès viennent plus de la radiothérapie. Quant à la chimiothérapie, il n'y a pas de modification depuis maintenant plus de 15 ans. Ce sont toujours les mêmes schémas et il n'y a pas de schéma véritablement supérieur à un autre. Et en fait, on a été assez déçus par les résultats avec les thérapeutiques ciblées telles que les inhibiteurs de GFR comme le cetuximab, mais chez des patients tout venant, sans tenir compte du statut mutationnel. Et il faut attendre les résultats des essais chez les patients présentant une addiction oncogénique. Je vous remercie.